Les années-lumière, édition du 4 avril 2010. Et si la fève de cacao venait un jour à manquer, passerions-nous toujours d'aussi belles fêtes de Pâques ? Bonjour, ici Yannick Villedieu d'Équipe, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Bienvenue et tout d'abord, bien sûr, joyeuse Pâques. Oui, oui, on va faire nous aussi dans le chocolat, ça va être tout à l'heure. Mais pour commencer, on va faire dans l'humain et même dans le très vieil humain, Sophie-André Blondin.
Oui, une phalange, un morceau de petit doigt a dit au paléogénéticien qu'il venait peut-être de découvrir une nouvelle espèce d'hominidée encore inconnue.
Extraordinaire. Je vous parlerai ensuite de truffes, mais non, pas de truffes en chocolat, de vraies truffes, la truffe noire du Périgord, dont des chercheurs européens viennent de décrypter le génome, la séquence génétique complète, et dans ce cas-là, tout le secret est dans les gènes. Puis nous irons au courrier des auditeurs avec vous, Luc de Roussan.
Oui, c'est un auditeur de Saint-Hilaire qui veut savoir si les essais nucléaires souterrains qui ont eu lieu depuis les années 50 ont endommagé la structure géologique de la Terre.
Et nous terminerons la première heure avec la chronique d'Yves Gingras qui va parler éthique de la science et des subventions à la recherche. Deuxième heure, on va là enfin parler de chocolat et ce sera avec vous Chantal Srivastava.
On en mange de plus en plus Yannick et pas seulement à Pâques. Sauf que les ressources, elles, ne sont pas illimitées, nous préviennent les experts.
Et oui, il faut faire attention. Puis vous nous emmènerez au Japon, Marie-France Bélanger.
Oui, Yannick, nous irons au Japon, l'un des trois leaders mondiaux dans le domaine des nanotechnologies. Les nanotechnologies suscitent de bien grands espoirs chez les Japonais, mais aussi certaines craintes à cause des risques potentiels sur la santé des nanoparticules.
Et pour finir l'émission, je recevrai l'auteur de la semaine, l'auteur d'un roman, policier à haute teneur scientifique quand même. Il s'appelle Pierre Bélan, il a écrit « Là où la nuit tombe », c'est chez Libre Expression, c'est un vrai thriller. Mais pour commencer, une autre grande enquête sur la trace de nos origines. Alors oui, la question se pose, la question de l'enquête. A-t-on trouvé une nouvelle espèce humaine qui vivait en Sibérie il y a environ 40 000 ans, en même temps que d'autres espèces connues, l'homme moderne, Homo sapiens et Néandertal? Des résultats d'analyse génétique publiés dans la revue Nature ont de quoi mener sur cette piste, Sophie-André Blondin.
Oui, une piste qui suscite l'enthousiasme. Évidemment, c'est pas tous les jours qu'on se découvre un cousin inconnu, mais une piste qu'il faut suivre avec prudence, bien évidemment. À l'origine de cette piste, une toute petite phalange, une phalange de petits doigts trouvée dans une grotte du sud de la Sibérie, la grotte Denisova. Ça, c'est une région qui est fouillée par des équipes depuis plusieurs années, des équipes qui ont trouvé beaucoup de sites paléolithiques, mais des restes humains qui sont très fragmentaires. Et ces ossements qui viennent de la Sibérie sont de bons candidats dans la pêche à l'ADN très ancien parce qu'il fait froid en Sibérie et que le froid ralentit la dégradation de l'ADN. Et la pêche à l'ADN de Néandertal surtout, c'est un sport que pratiquent les chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne. Ils sont en train de séquencer le génome de Néandertal. Alors quand Johannes Krauss a analysé l'ADN mitochondrial contenu dans cette petite phalange, il s'attendait à identifier soit un Néandertalien, soit un homme moderne.
Et ce n'est pas ce qu'il a trouvé.
Ah non! L'ADN mitochondrial de la phalange est très bien conservé, mais il est différent, très différent de celui de l'homme moderne. Il est différent aussi, très différent de celui de Néandertal. Petite parenthèse au sujet de l'ADN mitochondrial, on en a tous. Mais cet ADN mitochondrial, on ne le trouve pas dans nos chromosomes, il se trouve dans les mitochondries, on pourrait dire des petites usines qu'on trouve dans nos cellules. Cet ADN, il ne se recombine pas, c'est-à-dire qu'il ne se mélange pas avec l'ADN du partenaire au moment de la reproduction. Il n'est transmis que par la mère. Il est beaucoup moins complexe que notre autre ADN,
bien sûr,
qui est l'ADN nucléaire. L'ADN mitochondrial contient 16 000 paires de bases au lieu des 3,5 milliards que contient l'ADN nucléaire. Dernière particularité, l'ADN mitochondrial évolue très vite, ce qui permet d'identifier des lignées par les motifs qu'on va retrouver. Mmh. Donc, on revient à l'individu qu'on a trouvé, dont on a trouvé en fait la phalange. On n'a pas reconnu le motif néandertalien, on n'a pas non plus reconnu le motif de l'homme moderne. Petit ordre d'idées des différences qu'on a constatées. Entre Néandertal et l'homme moderne, nous, on trouve des divergences, des différences sur 202 positions. Il y avait des différences sur 385 positions avec l'hominidé qu'on a trouvé dans la grotte de Denisova. Autre ordre d'idées, avec le chimpanzé, par exemple, pour aller encore plus loin, on a des différences sur 1462 positions.
Alors, des différences très nombreuses, dans beaucoup de positions sur l'ADN en question. Est-ce qu'on a une autre espèce, la question qui tue.
Et là, les lumières. Non, en fait, l'histoire ne le dit pas encore. On n'a pas la réponse là-dessus. Même si le mot « espèce » a été publié beaucoup depuis une semaine, dans leur article, les chercheurs de l'Institut Max Planck ne s'aventurent pas à dire que la phalange trouvée dans la grotte de Denisova en Sibérie, ça appartient à une espèce inconnue d'hominidés. Jean-Jacques Hublin est directeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive à Leipzig, en Allemagne, là où l'équipe a séquencé l'ADN mitochondrial contenu dans la petite phalange. Et puis déterminer s'il s'agit d'une nouvelle espèce, il nous explique, c'est pas si simple.
Alors c'est là que ça se complique un petit peu quand même. Hein. Ça se complique un petit peu parce que les collègues généticiens qui ont fait cette découverte se gardent bien de parler d'espèces nouvelles hein, ou de genres nouveaux. Pour l'instant, on parle d'une lignée mitochondriale. Alors pourquoi je prends cette précaution ? Eh bien parce que l'ADN mitochondrial, c'est quelque chose qui est transmis de mère en fille et en fils, hein, mais qui, disons, se transmet par des lignées maternelles uniquement et ne se recombine pas. Et donc, en théorie, il y a la possibilité qu'une lignée mitochondriale très ancienne ait fait son chemin, si je peux dire, à travers une espèce fossile connue ou inconnue, en particulier s'il y a eu, disons, hybridation avec une population locale. Hein. Imaginons, c'est un cas de figure théorique, hein, mais imaginons des hommes de Néandertal ou des hommes, des Homo sapiens anciens arrivant dans la région et s'hybridant avec des formes plus anciennes qui sont sur place, eh bien, une lignée mitochondriale peut être transmise par une femme et faire son chemin dans cette espèce.
Il se pourrait que cette lignée soit passée sous le radar.
C'est pas tout à fait ça. Je crois que elle est passée sous le radar simplement parce que pour l'instant, on s'est concentré surtout sur les Néandertaliens et en fait, en pratique, surtout sur des restes qui viennent d'Europe ou d'Asie centrale, mais en fait assez peu, surtout d'Europe. Hein. Et pour le reste du monde, en gros, on ne sait rien. Donc évidemment, on va trouver des choses nouvelles, en particulier en Asie. L'autre aspect important de la question, c'est que pour l'instant, rien n'a été dit ni publié sur l'ADN nucléaire de ce spécimen. Et sans trahir des secrets, puisqu'il en a été question dans une conférence de presse, il y en a. Hein, il y en a. On aura une image beaucoup plus, j'allais dire, complète de la situation quand on aura cet ADN nucléaire.
On peut imaginer que l'équipe est à l'œuvre pour décoder cet ADN nucléaire en ce moment.
Vous imaginez bien.
Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive en Allemagne, qui attend avec bien d'autres chercheurs évidemment les résultats de cet ADN nucléaire, celui qui se trouve dans le noyau, qui devrait être beaucoup plus bavard, lui, hein, au sujet de l'identité de là ou du propriétaire de cette petite phalange.
Oui, d'ici quelques mois, la communauté scientifique s'attend à des publications qui vont jeter plus de lumière sur l'identité de son ou de sa propriétaire. Parce qu'avant de conclure qu'une troisième espèce cohabitait avec Néandertal et l'homme moderne, il reste encore quelques mystères à élucider. Un exemple, on ne sait pas tout de la variabilité génétique des Néandertaliens qui pourrait être plus grande que celle qu'on constate avec les échantillons qu'on a actuellement, des échantillons qui proviennent surtout de l'Europe de l'Ouest.
Oui, évidemment. Et de toute façon, la détermination des espèces a donné lieu à beaucoup, beaucoup de débats, à des controverses, en fait, comme ce fut le cas autour de l'homme de Florès. On s'en rappelle, il y a quelques années, ce petit hominidé découvert, c'était quoi, en 2003, là, sur une île en Indonésie. On l'avait appelé le Hobbit. petite, lui.
Oui, parce qu'il est tout petit.
Tout petit, oui.
Isolé sur son île, Florès aurait cohabité avec l'homme moderne il y a environ 17 000 ans. Puis aujourd'hui, la communauté scientifique penche plutôt du côté d'une espèce distincte, effectivement, pour l'homme de Florès, après quelques tergiversations. Mais voilà, Florès vivait isolé sur son île. Il y avait une barrière, un obstacle qui a pu permettre à une espèce différente de se développer. Et c'est un des éléments qui manque à ce nouveau candidat de la Sibérie pour en faire une espèce à part. À ce sujet, Eugène Morin, professeur assistant au département d'anthropologie à l'Université Trent.
Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que là, on a des restes humains. Les anthropologues physiques ont étudié ces restes humains-là et ils sont très différents de ceux que l'on trouve à ce moment-là ailleurs dans le monde. Et donc, juste de ce point de vue-là, on est certain qu'on a affaire à quelque chose de différent. Ensuite, quand on essaie de comprendre un peu qu'est-ce que ce groupe-là représente, bien, il y a possiblement ici un effet de divergence, c'est-à-dire un groupe qui est isolé, qui a peu de contact avec le continent et qui, au fil des années, bien, se différencie ou en tout cas évolue vers une trajectoire qui n'est pas celle qui a été suivie par les groupes modernes.
On n'y est pas avec cette petite phalange découverte en Sibérie parce qu'un petit morceau d'os comme ça, c'est bien peu. Pourquoi est-ce qu'il en reste si peu, d'ailleurs, des restes humains comme ça, de cette période-là à cet endroit-là?
Ah ben ça, c'est une bonne question. En fait, les restes humains, on en a beaucoup pour le moustérien, donc pour la période qui correspond au groupe néandertalien, mais pour ce qui correspond au début du paléolithique supérieur, donc la période qui aurait été marquée par l'avènement des groupes modernes en Europe, on en a assez peu. Donc, c'est surprenant. C'est pour les périodes un petit peu plus anciennes où on a plus de restes humains. Alors, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. C'est possiblement que, pour des raisons culturelles, on décidait de ne plus enterrer. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'ethnographiquement, les populations d'Amérique du Nord, par exemple, dans certains cas, ils préféraient mettre les corps sur des tréteaux et brûler les corps. Dans d'autres cas, on laisse tout simplement les morts en arrière et puis on passe au prochain site. Donc, il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer ça. Ça pourrait être des facteurs aussi de conservation de l'os, mais bon, c'est moins convaincant. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Je dirais que les possibilités culturelles sont probablement celles qui prédominent.
Alors, il va falloir extraire toute l'information qu'on peut des petits ossements qu'on trouve, mais l'idée qu'il y ait eu plusieurs espèces d'humains, peut-être en même temps sur Terre, cette idée-là n'est pas farfelue.
Non, c'est pas farfelu. Cependant, dans le cas de l'Europe, en tout cas pour ce qui est de Denisova, là, donc le reste de la phalange qui a été trouvée, moi, ça m'apparaît moins convaincant parce que on est dans une région où il n'y a pas vraiment de barrière qui empêcherait des échanges génétiques avec les groupes voisins. Et surtout, quand on a des Néandertaliens qui sont pas très loin, à moins de 100 km, là, il y a des sites qui ont livré des restes Néandertaliens clairs. Moi, je tendrais plutôt à croire que ce qu'on a, c'est plutôt des réseaux d'échanges génétiques qui sont plus marqués que ce que l'on voit dans l'actuel.
Eugène Morin, qui est professeur au département d'anthropologie de l'Université de Trent en Ontario, n'empêche, Sophie André, que plusieurs espèces dominées qui cohabitent, ça s'est déjà vu.
Ça s'est vu dans des périodes plus anciennes, mais il serait emballant de constater que trois espèces auraient pu cohabiter en Europe il y a autour de 30 000 à 50 000 ans. Néandertal, notre ancêtre à nous, et ce petit nouveau de la Sibérie.
Oui.
Mais il faut aussi user du mot espèce avec circonspection. C'est Marilène Patou-Mathis qui nous le rappelle. Elle est préhistorienne, spécialiste de Néandertal et directrice de recherche au Centre national de recherche scientifique à Paris.
Ça, c'était quelque chose qui était déjà très intéressant puisqu'on l'a eu au cours de notre histoire, hein, même pour des périodes plus anciennes. Il y a eu plusieurs types d'australopithèques en même temps, de types proches d'Homo erectus en même temps, etc. Et là, on constate qu'en fin de compte, même pour les périodes plus récentes, hein, parce qu'on se situe ici, d'après les datations, bon, là aussi, il faut vérifier ces datations, entre 30 et 50 pour cette nouvelle espèce, entre guillemets,
30 et 50 000 ans, oui.
C'est un peu plus récent en Europe. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ça, c'est toujours intéressant. Et moi, c'est pour ça que j'avais intitulé mon livre Néandertal, une autre humanité, parce qu'il y a eu, à mon avis, peut-être, donc, non seulement en Europe, deux humanités, mais peut-être il y en aura trois. C'est-à-dire que, voilà, parce que je ne voulais pas parler en termes d'espèces. Je crois que c'est toujours au niveau vraiment, si on veut être précis, comme le mot race, le mot espèce, c'est toujours très délicat à manipuler. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est en tout cas des hommes différents. Donc, si ça se confirme, si on trouve d'autres restes, ça, c'est vraiment passionnant, parce que là, ils sont même pas deux, mais ils sont trois sur les mêmes territoires européens. Ça, c'est vraiment intéressant, aux confins de l'Asie, presque. Donc, c'était très intéressant. Si ça se confirme, si on trouve d'autres restes, parce que là, cette pauvre petite phalange toute seule égarée, je pense que là, c'est vraiment une découverte majeure. Voilà, si vous voulez, je suis enthousiasmée par cette découverte, mais prudente. Il faut confirmer cette notion d'espèce différente et cette notion aussi peut-être de datation. Est-ce que c'est vraiment entre 50 et 30 000? Mais en tout cas, le fait est intéressant de s'imaginer qu'en fin de compte, il y avait des, entre guillemets, des cohabitations sur les mêmes territoires, ce qui n'existe pas aujourd'hui, évidemment.
Marie-Liane Patou-Mathis, qui est préhistorienne au Centre national de la recherche scientifique à Paris. Alors effectivement, Sophie André, comme elle le dit, il y a peu de variétés de ce côté aujourd'hui.
Oui, de notre côté aujourd'hui, il y a une seule espèce d'humain sur toute la Terre et c'est nous. Mm-hmm. On n'envisage pas facilement les choses autrement, mais peut-être qu'il le faudrait. À nouveau, là-dessus, Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive.
Ce qui est important aussi de dire à propos de cette découverte, c'est peut-être d'essayer de prendre un peu de recul et de voir le paysage plus vaste qui entoure cette découverte. Aujourd'hui, il y a seulement une espèce humaine qui peuple toute la Terre. Et c'est une espèce qui est très homogène, qui a envahi toute la planète, qui a conquis tous les milieux, qui est même allée sur la Lune. Cette espèce-là, elle est unique et pour nous, c'est quelque chose qui s'impose à notre esprit, l'unicité de l'homme. En fait, cette situation-là, c'est une situation complètement exceptionnelle. Si on remonte dans le temps, pas très loin, quelques dizaines de milliers d'années, eh bien, on a une situation un petit peu à la Star Trek, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a toujours plusieurs espèces humaines ou dominidées qui vivent sur Terre, dans des régions différentes, parfois dans les mêmes régions.
Et en cette année mondiale de la biodiversité, d'une certaine façon, il faut s'ouvrir à la possibilité d'une biodiversité humaine dans notre passé pas si lointain.
Ah ben, c'est une réalité qu'il faut non seulement à laquelle il faut s'ouvrir, mais qu'il faut complètement accepter. C'est une idée difficile. C'est une idée difficile. Au cours des 6 ou 7 derniers millions d'années, c'est-à-dire la période pendant laquelle les hommes et disons nos plus proches parents actuels, les chimpanzés, ont connu des évolutions séparées, eh bien, au cours de cette période-là, il y a eu au moins 15, 16 ou 17 espèces différentes d'hominidés qui nous ont précédés. Et je suis bien sûr que d'ici que je prenne ma retraite, on va en trouver encore 4 ou 5.
Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive. Bref, Sophie André, la famille s'agrandit, c'est tout.
Oui, et pourquoi donc une seule branche de cette famille, une seule espèce, la nôtre, est-elle devenue si envahissante? Ben, c'est pour répondre à ce genre de questions que les archéologues, les anthropologues physiques et maintenant les anthropologues moléculaires, ceux qui décortiquent l'ADN qu'on réussit à extraire des fossiles humains, que tout ce beau monde collabore. Alors, notre portrait de famille va se préciser encore. Ça, mon petit doigt, ma petite phalange à moi, me dit que c'est assuré.
Merci beaucoup, Sophie André.
Au revoir.
Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Tuber melanosporum. Si ce nom savant ne vous dit rien, vous connaissez certainement son équivalent commun, la truffe. La truffe noire du Périgord, un luxe gastronomique qui vaut entre 1 500 et 3 000, 4 000, 5 000 dollars le kilo. Mais pourquoi parler de ce délice gastronomique dans une émission scientifique? Tout simplement parce qu'une équipe de chercheurs européens annonce dans la revue britannique Nature qu'elle a séquencé le génome de la truffe. Alors pour nous parler de cette avancée de la génétique, j'ai en ligne le chercheur principal de l'étude, Francis Martin de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique français. Bonjour monsieur Martin.
Bonjour à vous, chers auditeurs québécois.
C'est ça, donc on va parler de science dans cette interview, mais deux mots quand même pour parler gastronomie, une brève présentation de la truffe, monsieur Martin.
Alors la truffe Tuber melanosporum, la truffe noire du Périgord, c'est un champignon tellurique, un champignon qui vit, un champignon souterrain, qui vit dans le sol et qui interagit avec la racine de certains arbres, comme les chênes ou les noisetiers, et qui établit une symbiose mutualiste entre son mycélium et la racine de ses arbres.
Le principe de ce qu'on appelle les champignons mycorhizateurs, des mycorhizes, c'est ça, oui.
C'est la symbiose mycorhizienne qui concerne la grande majorité des arbres de la forêt tempérée et de la forêt boréale.
Alors, parlons de ce génome de Tuber melanosporum, de la truffe. D'abord, c'est un gros génome. Il se présente comment? Est-ce qu'il y a des particularités, des surprises?
Ah, il nous a apporté beaucoup de surprises, ce génome de Tuber melanosporum. Je peux au moins en citer deux. D'abord, c'est le plus gros génome de champignons jamais séquencé. Il contient 125 millions de lettres. Nous, on dit souvent 125 mégabases. Donc, le plus gros génome séquencé.
Oui.
Et en même temps, le plus petit répertoire de gènes codant des protéines connues.
Étonnant.
Les champignons filamenteux. Donc, il y a là une dualité. Alors, il est gros, il a 125 millions de paires de bases, parce qu'il est bourré, il est rempli, il contient énormément d'éléments mobiles répétés qu'on appelle les transposons.
Alors donc ça, c'est une surprise donc dans la structure de ce génome-là. J'imagine que c'est dans le génome en question qu'on a trouvé tous les secrets des arômes de la truffe, non?
Alors, il est certain que lorsqu'on a parcouru le répertoire, la liste des gènes codant les différentes protéines, les différentes enzymes de ce champignon, on a porté une attention toute particulière aux enzymes impliquées dans les voies de biosynthèse des composés et volatiles organiques, qu'on appelle VOC, et qui constituent ce cocktail conduisant au parfum et à l'arôme.
Des composés soufrés notamment, ça c'est pas tellement étonnant pour les gastronomes.
C'est un cocktail assez complexe, on a au minimum 200 molécules différentes, des alcools, des éléments volatiles comme les aldéhydes, mais aussi beaucoup d'éléments soufrés, y compris le sulfure d'hydrogène, mais aussi des diméthylsulfides, des diméthylsulfures, qui forment un complexe mélange qui finalement attire l'homme, mais aussi certaines mouches, les cochons sauvages, qui vont assurer la propagation de l'espèce. Mais c'est sûr qu'il y a une bonne proportion de composés soufrés.
Donc on a trouvé dans le génome les secrets, plusieurs des secrets en tout cas de ces arômes, parce qu'effectivement c'est un arôme, l'arôme de la truffe, de très complexe, très riche. Et ça donne une idée de cette complexité-là, le fait qu'on ait autant de gènes différents qui codent pour autant de composés volatiles, comme vous dites, qui émettent ces odeurs, ces arômes.
Effectivement, en fait, on pensait qu'une bonne partie des arômes de la truffe étaient produits par la microflore bactérienne ou de levure qui vit sur la croûte, sur l'écorce de la truffe, un petit peu comme les fromages.
Oui.
On pensait que le parfum de la truffe provenait essentiellement de la microflore bactérienne, du cortège de bactéries et de micro-organismes qui vit dans le sol sur la truffe. Et en fait, non, avec l'analyse du génome de Tuber melanosporum, on a parfaitement démontré que le patrimoine génétique contient et capable de coder l'ensemble des voies métaboliques, des enzymes qui conduisent à la synthèse de ces composés. Alors évidemment, on n'a pas tout résolu parce qu'on s'aperçoit que ce cocktail de molécules évolue avec le degré de maturité de la truffe, va varier avec les conditions environnementales, le sol, et on est en train, avec nos collègues italiens, d'essayer de mieux caractériser l'évolution de ce cocktail complexe.
Parce qu'en Italie, il y a la truffe blanche, qui est un peu la concurrente de la truffe noire du Périgord.
Ah, tout à fait, mais la truffe noire du Périgord se trouve également dans le nord de l'Italie et fait bonne figure face à la truffe blanche du Piémont.
Bien sûr. Alors, on a dit la truffe est un champignon qui pousse sous le sol, dans une relation, une symbiose avec les arbres, donc dans le principe de la mycorhize, qui est très largement répandu dans la nature. Qu'est-ce que le séquençage de la truffe noire nous apprend sur les façons dont les champignons interagissent avec les arbres, sur l'évolution de cette relation, parce que j'imagine que c'est une relation très 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 ancienne.
Absolument. Et c'est l'autre surprise de l'analyse de ce génome et de l'étude de l'expression des gènes codés par ce génome.
Oui.
On a pu montrer que les signaux, les gènes, les protéines, les réseaux de gènes impliqués dans l'interaction avec l'arbre étaient très différents entre la truffe et l'autre champignon que nous avions séquencé il y a deux ans, le Basidiomycète, l'Acaria bicolore.
Oui.
Les deux organismes dialoguent avec la plante de façon très différente. La truffe est plutôt un champignon agressif qui pénétrerait dans la racine à l'aide d'enzymes hydrolytiques pour se frayer son chemin jusqu'aux ressources nutritives qui s'y trouvent, alors que l'acaria est plutôt discret, évite d'utiliser ce type d'enzyme agressive pour éviter probablement d'irriter la plante. Mmh. Donc cette simple comparaison nous montre bien que les champignons, au cours de l'évolution, ont appris à dialoguer avec la plante de façon différente, utilisent des boîtes à outils moléculaires différentes.
Et donc ça veut dire qu'au cours de l'évolution, probablement il y a plusieurs millions d'années, le champignon dont vous parliez, l'acaria bicolore que vous avez séquencé il y a 2 ans, et la truffe, se sont séparés au fond dans l'arbre de l'évolution ?
Tout à fait. On pense que les champignons ascomycètes dont font partie la truffe et les champignons basidiomycètes dont fait partie l'acaria se sont séparés il y a 500, 600, 700 millions d'années. Donc c'est les deux grandes branches du monde des champignons, d'un côté les basidiomycètes, de l'autre les ascomycètes. Et là on s'aperçoit que les deux mondes fongiques ont appris à utiliser des outils, des mécanismes, un langage, un dialecte différent pour interagir avec les mêmes arbres. Parfois, un même chêne peut porter sur une de ses racines la truffe et sur une autre racine le laquaire. Eh bien, il va dialoguer avec ces deux micro-organismes, ces deux partenaires symbiotiques de façon différente. Et ça, c'est vraiment étonnant.
D'un point de vue pratique, vous êtes dans un institut national de recherche agronomique. J'imagine qu'il y a éventuellement des retombées pratiques. Sur la culture éventuellement de la truffe, on sait que ce n'est pas un champignon qu'on peut facilement cultiver. Est-ce que vos recherches pourraient amener à des meilleures façons de cultiver la truffe ?
Tout à fait. On vient d'être financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'un programme qui s'appelle CIS-Truffes pour mieux comprendre l'écologie des vergers à truffes, des truffières, pour aider les trufficulteurs grâce aux outils moléculaires que nous venons de développer, grâce à une base d'empreintes génétiques, de mieux suivre l'installation de la truffe, sa dissémination, parfois hélas aussi son éradication par d'autres champignons compétiteurs. Il y a tout un domaine où il y a une forte demande des trufficulteurs en Europe et ailleurs dans le monde. D'ailleurs, j'ai des contacts avec des trufficulteurs australiens qui ont les mêmes soucis, c'est-à-dire comment conduire au mieux son verger à truffes. Et là, on va essayer de leur fournir des informations scientifiques sur l'écologie de la truffe.
C'est un bel exemple, en conclusion, Monsieur Francis Martin, du fait que science et gastronomie peuvent parfois aller main dans la main.
Ah ben voilà, maintenant quand vous mangerez une truffe, vous réaliserez qu'il y a plusieurs centaines de parfums, de molécules qui s'associent pour donner toute cette subtilité qu'on aime bien.
Et il y a précisément 7496 gènes codants dans cette merveilleuse truffe.
Eh oui.
Eh bien, Monsieur Francis Martin, je vous remercie beaucoup de cette interview. Je rappelle que vous êtes chercheur donc à l'unité interaction arbre-micro-organisme de l'Institut national de la recherche agronomique français. Merci beaucoup, Monsieur Martin.
Au revoir.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir, en deuxième heure, un sujet à écouter en dégustant votre coco de Pâques.
On est tous inquiets. On est toujours inquiets lorsque l'on a une pénurie structurelle, c'est-à-dire plus de demandes que d'offres. Y aura-t-il suffisamment de fèves de cacao un jour pour satisfaire tous les amoureux du chocolat ?
Un monde en pénurie de chocolat, ça serait terrible. Alors c'est le moment du courrier des auditeurs. La question cette semaine porte sur les essais nucléaires souterrains qui ont eu lieu pendant une soixantaine d'années.
Bonjour, mon nom est Daniel Vincent de Saint-Hilaire. J'aimerais savoir si le fait que l'homme ait fabriqué des bombes à hydrogène ou atomiques souterraines n'a pas eu des répercussions à d'autres endroits sur la planète qui ont fait en sorte qu'il y ait eu des séismes, des tremblements de terre. Merci. Au revoir.
Alors, pour répondre à la question de Daniel Vincent de Saint-Hilaire, près de Montréal, Hugues de Roussan a joint Régent Hébert, qui est professeur au département de géologie de génie géologique à l'Université Laval à Québec, et qui rappelle, M. Hébert, que les essais nucléaires souterrains étaient militaires et non pas scientifiques.
C'est purement militaire. Hein. Les essais nucléaires étaient pour développer des armes de dissuasion. On faisait des essais nucléaires auparavant pratiquement à l'air libre et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de retombées nucléaires. Et ça, c'était très néfaste pour les populations. Il y a eu des cas documentés où il y a des soldats qui ont été exposés, des populations qui ont été exposées sans qu'ils ne le sachent. Ils l'ont su par après. Et après ça, on s'est mis à faire des essais nucléaires souterrains et même au fond de l'eau, au fond des océans. Ces essais-là, donc, on pensait qu'ils étaient un peu moins nocifs, mais il y a quand même des émissions radioactives qui sont faites. Donc, il y a des géophysiciens, donc des gens qui étudient la propagation des ondes dans la planète, qui ont utilisé ces résultats-là pour pouvoir obtenir des informations sur la structure sismique de la planète.
Est-ce que ces résultats-là, on a mis du temps à les avoir? Parce que généralement, les militaires n'ont pas tendance à donner leurs secrets de leur recherche.
Comme les ondes voyagent indépendamment du contrôle militaire, donc il y a des stations équipées de sismomètres qui ont pu détecter ces ondes-là, sachant donc le point de tir, sachant l'heure évidemment du tir, on peut à ce moment-là calculer les vitesses et voir à partir d'où, à quelle profondeur les ondes sont accélérées ou décélérées. C'est comme ça qu'on a pu, par exemple, imager une discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Gutenberg, qui était vers 2800 km de profondeur et qui est la limite entre le noyau liquide et le manteau. On avait une idée que cette discontinuité-là existait, mais avec les essais nucléaires, on a pu l'imager très, très bien.
Est-ce que ça a profondément changé la vision qu'on avait du centre de la planète?
Oui, ben on a confirmé aussi que le noyau était mixte, hein, donc une écorce extérieure qui est liquide et un noyau ou une graine qui est solide, principalement composée de nickel et de fer. On ne l'a jamais vu, ce noyau-là, mais on le modélise avec en fonction des vitesses des ondes. Quand les ondes traversent un milieu solide, elles sont accélérées, et quand elles traversent un milieu liquide, elles sont décélérées. Donc, en appliquant un modèle mathématique, on est capable de calculer la densité de ce milieu-là et éventuellement sa composition.
On est arrivé à avoir ces données et on a réussi à faire ces observations à partir d'essais nucléaires qui, disons, qui ne sont pas contrôlés par le milieu scientifique. Est-ce qu'il serait possible d'imaginer d'avoir des espèces de mini-bombes nucléaires ou comme des machines à séisme, justement, pour voir comment la croûte terrestre pourrait réagir en cas de séisme?
Ah, ben on le fait, hein? On le fait, mais on n'utilise pas à ce moment-là l'énergie nucléaire. On utilise des explosifs là, s'apparentant au TNT normal. Là. Donc, on est capable de créer quand même des impacts d'ondes assez forts pour pouvoir traverser complètement la planète. Hein. Et aussi, ce qu'on utilise, c'est les données des grands tremblements de terre. Les grands tremblements de terre, les ondes sont répercutées partout à l'intérieur de la planète, sachant exactement quand le tremblement de terre s'est produit. On sait à peu près donc la vitesse des ondes que ça engendre. Et à ce moment-là, compte tenu du trajet qui est enregistré entre le point d'émission et le point d'arrivée, bien, on peut aussi utiliser ces données-là pour connaître la structure interne de la planète.
Là-dessus, il n'y a qu'un pas pour imaginer que quelqu'un un jour pourrait provoquer un séisme.
Il y a des gens qui s'intéressent à cette chose. Apparemment, il y aurait un cas qui est répertorié en Californie où un séisme en aurait prouvé un autre plus à l'intérieur des terres. Mais ça demeure encore une conjecture là qui n'est pas encore vraiment prouvée. Et aussi, on sait très bien que des petits séismes sont engendrés par la création, par exemple, de barrages hydroélectriques. Et l'eau s'infiltre dans les fissures du roc et provoque donc des vibrations du roc. Et ça se mesure là avec des appareils, c'est clair.
Est-ce que c'est possible d'imaginer que 1500 essais nucléaires souterrains n'ont eu aucun impact sur la structure de la Terre ou encore n'ont provoqué aucun séisme ou aucun dégât souterrain?
Je ne croirais pas qu'il y ait des effets donc, importants qui soient générés par ces essais-là. C'est certain qu'on peut localement faire bouger des petites failles, mais il faut que ces failles-là soient à proximité. Il faut qu'on soit dans une région déjà, disons, tectoniquement active, là où il y a des structures actives.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'écorce terrestre, malgré ses défauts et ses failles, est encore assez solide pour absorber ce genre d'énergie.
c'est évidemment une pression très, très forte, mais c'est une pression qui est très locale quand on fait un essai nucléaire. Déjà, l'atténuation est marquée là, à l'intérieur de quelques dizaines de kilomètres de l'impact. On peut mesurer donc les ondes qui sont émises, mais déjà, il y a une atténuation qui est remarquée.
Donc, ça n'a rien à voir avec un mouvement des plaques tectoniques au fond de l'océan, ça?
Non. Et même sur les continents aussi. Hein. La face de Saint-Andréas, par exemple, est un bel exemple. L'énergie qui est dégagée lors de ces tremblements de terre peut être excessivement élevée aussi. Hein. Ça se propage partout sur la planète. Ces mouvements-là se produisent en grande profondeur, plusieurs dizaines de kilomètres, hein, et donc ça se propage partout sur la planète.
Monsieur Hébert, je vous remercie beaucoup.
Ça fait plaisir.
Hugues de Roussan s'entretenait avec Régent Hébert, qui est professeur de génie géologique à l'Université Laval à Québec. Si vous avez, vous aussi, des questions de science, vous pouvez nous les poser, soit par téléphone. Alors, de la région de Montréal, vous faites le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays sans frais, vous faites le 1-800-752-9050. Ou vous pouvez aussi nous les poser par courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière avec cette semaine Yves Gingras. Bonjour Yves.
Bonjour Yannick.
Sociologue des sciences, historien des sciences en résidence, professeur à l'Université du Québec à Montréal. Yves Gingras, on va parler aujourd'hui d'éthique de la recherche. Les revues PLOS ont décidé, ont annoncé leur décision de ne plus publier d'articles issus de recherches subventionnées par l'industrie du tabac. Ça pose de belles questions éthiques, mais d'abord PLOS, rapidement, c'est quoi?
Public Library of Science, c'est issu du mouvement de, qu'on appelle en anglais Open Access, donc de l'accès libre aux publications scientifiques, qui s'est développé énormément au cours des 10 dernières années. Et donc, PLOS, comme on l'appelle, il y a PLOS One, qui est une revue générale, PLOS Biology, et l'éditorial dont on parle est dans PLOS Medicine. Mais la décision s'applique à l'ensemble, donc des revues PLOS.
Mm-hmm. Qui et sont leur donc décision,
des, c'est? De... C'est de ne plus publier aucune recherche subventionnée par l'industrie du tabac. Or,
Quel que soit le sujet de la recherche.
Voilà. Ce qui pose problème, c'est qu'on a commencé dans le milieu scientifique à s'éveiller au plan éthique lorsqu'il y a eu plein d'études qui ont démontré que lorsqu'une recherche qui porte, disons, sur une pilule donnée ou sur le tabac, si elle est subventionnée par l'industrie qui fait la pilule, la probabilité qu'il y ait des biais est assez forte. Et d'ailleurs, c'est démontré statistiquement, il y a 3 à 4 fois plus de chances que les résultats soient positifs dans des études cliniques subventionnées. Mm-hmm. Fait qu'eux, ils ont dit, mais nous, on va plus loin parce que, bien sûr, on n'accepte plus des articles et d'autres revues le font, par exemple, des revues sur l'analyse des poumons. Bien sûr, on comprend qu'ils sont assez réticents à publier des articles subventionnés par l'industrie du tabac. Mais c'est des articles qui portaient sur la nocivité du tabac. Là, le pas qui est franchi, c'est quel que soit
le sujet.
Par exemple, au milieu des années 1980, Prusiner, qui travaillait sur les prions, c'est pas relié au tabac, avait beaucoup de subventions de l'industrie du tabac parce que l'hypothèse de Prusiner était très risquée et c'est pas tout le monde qui était prêt à le subventionner. Or, les compagnies du tabac ont voulu le subventionner, ça lui donnait une image de marque.
D'ailleurs, Stanley Prusiner a eu le prix Nobel pour ses travaux sur les prions, il faut dire.
Exactement. Et ça, alors, ça fait plaisir à ces compagnies-là qui ont dit, voyez-vous, on a subventionné de la recherche.
Nous sommes généreux.
Exactement.
Alors, les arguments de la revue PLOS, c'est quoi pour dire on ne publie plus à partir de maintenant? C'est parce que c'est de l'argent sale, parce que c'est de l'argent mal gagné?
Il y a deux approches. La première, c'est de dire, au fond, c'est jouer le jeu d'une stratégie de promotion. Parce que lorsque les compagnies du tabac veulent subventionner des domaines qui n'ont rien à voir, on se demande pourquoi.
Comme les prions, par exemple.
On se demande pour quelle raison. Or, quand on réfléchit, il n'y a pas d'autre raison, à moins d'avoir une grande naïveté sur la philanthropie, il n'y a pas d'autre raison que de se refaire une image de marque. Le deuxième, plus subtil et plus délicat, c'est de se dire, au fond, alors qu'en science, d'habitude, les gens souvent vont dire l'argent n'a pas d'odeur, on a une subvention, c'est du mécénat. Dans le cas de l'industrie du tabac, d'où vient l'argent qui sert à la subvention? Elle vient des profits de la vente des produits du tabac.
Forcément.
Donc, comme il est entendu aujourd'hui depuis au moins 15 ans dans l'ensemble des pays développés qui ont fait des lois contre l'annonce du tabac pour encourager les gens à cesser de fumer parce que les coûts sociaux du tabac, tant de la fumée primaire que secondaire, sont absolument astronomiques. Et donc, c'est de se dire, accepter de l'argent, même pour travailler sur un sujet qui n'a pas rapport, c'est accepter de l'argent dont le profit est fait sur la mort des gens, ce qui est vraiment un peu absurde.
Du point de vue éthique, c'est difficile.
Oui. Du point de vue éthique, c'est difficile. Et donc, là, c'est un pas qui est franchi. D'autres vues, comme British Medical Journal, s'opposent à cette décision-là.
Donc, il n'y a pas d'unanimité, là, non?
Pas du tout. Et vous savez que quand le domaine de l'éthique de la recherche, on n'est pas dans le domaine du mesurable et du comptable. Mm-hmm. Et lorsqu'on étire un élastique, la question est toujours de dire jusqu'où on peut étirer de l'élastique.
Mm-hmm. Par exemple, le British Medical Journal dit, nous, on continue de publier ce genre de travaux-là?
Oui, parce que comme ils ne portent pas sur le tabac, on ne peut pas commencer à décider de censurer des travaux parce qu'ils sont subventionnés par une certaine firme et non pas une autre firme. Le problème avec cet argument-là, à mon avis, c'est que si on dit qu'il ne faut pas de censure, quelle est la limite de ça? Est-ce que toute recherche est nécessairement légitime? Donc, PLOS ONE a dit, nous, notre décision est prise, on a débattu cette question-là et on s'aperçoit que notre vue étant légitime, si on publie des résultats qui ont comme effet indirect d'encourager l'industrie du tabac, on va contre nos intérêts objectifs. Et d'accord. Donc, c'est une décision très importante.
Alors, cette question éthique, là, d'origine des fonds de la recherche, c'est quand même pas nouveau. Qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est pas légitime, qu'est-ce qu'on peut subventionner, pas subventionner, publier, pas publier, c'est une assez vieille histoire. Ça, l'historien a un œil là-dessus.
Oui, effectivement, c'est assez ancien et ça nous ramène des questions. Moi, quand j'ai lu ça, je dois dire, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la fameuse unité 731.
Qui était?
De fameuse mémoire, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, plus exactement dans la guerre entre le Japon et la Chine à partir de 1935 et pendant la Deuxième Guerre, lorsque le Japon entre en guerre avec les États-Unis et les autres, l'unité 731 faisait des recherches sur les effets des armes biologiques sur des cobayes. Et les cobayes, bien sûr, c'était
des humains.
Des humains, des Chinois au début qui étaient des prisonniers, ensuite d'autres types de prisonniers qui pouvaient être des Européens. Mmh. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont eu un problème éthique et ont dit tous les résultats de cette recherche, et c'est quand même des résultats qui ont été faits sur des cobayes ou sur des gens consentants. Donc, ils ont acheté la paix en disant, si on blanchit les chercheurs japonais qui ont travaillé sur cette question, alors on pourra utiliser les résultats. Mais d'autres pourraient se dire, mais non, les résultats ayant été faits sur des personnes, au fond, qui n'ont pas donné leur consentement, on ne devra pas utiliser les résultats.
Et les Américains ont choisi...
Et les Américains ont choisi de blanchir les scientifiques pour avoir accès à des résultats qui ont été faits dans des conditions non éthiques complètement. Sauf que d'un autre côté, on peut dire, oui, mais le résultat, lui, il est objectif. Hein? On a appris des choses. Vous voyez que c'est difficile. Les Américains ont décidé à l'époque que c'était mieux de prendre les résultats que de ne pas les prendre pour leurs recherches futures. Donc, il va y avoir toujours deux camps. Mais je pense que ce qui ressort sur le plan, je dirais, sociologique plus que éthique, c'est de se dire, mais pourquoi on en est là aujourd'hui? Je pense qu'on en est là aujourd'hui parce que la communauté scientifique, au moins une partie d'entre elles, a pris conscience que la naïveté de croire en la philanthropie sans se poser plus de questions, de croire que l'argent n'a pas d'odeur, a des limites, et qu'on vit aujourd'hui dans une période où la manipulation par des grandes compagnies est devenue tellement évidente qu'il y a eu des réactions. Le cas le plus gros, c'est celui, bien sûr, de l'industrie pharmaceutique qui s'est fait prendre à créer des revues savantes. Donc, ce genre de travaux a miné la confiance que les scientifiques avaient. Donc, aujourd'hui, on perd un peu nos repères et on se dit, l'industrie du tabac a été reconnue aussi pour créer des associations pseudo-écologiques, mais qui défendaient, au fond, des intérêts de l'industrie du tabac, de créer des pseudo-théories, de dire, il y a une science exacte. Et bien sûr, la science exacte, c'est celle qui ne va pas à l'encontre des industries pharmaceutiques ni de l'industrie du tabac. Donc, face à l'absence de contrôle, la réaction radicale, c'est de se dire, on ne fait plus confiance en l'industrie du tabac, même quand elle subventionne des choses apparemment utiles, et on arrête tout. Donc, c'est la prise de conscience d'une tentative de manipulation très généralisée dans un certain nombre d'industries qui amène une réaction extrême de dire, face à cela, on ne publie plus rien qui vient de cette source. Et on peut penser que ça va arriver maintenant aussi, plus tard, dans le cas des industries pharmaceutiques.
Yves Gingras, je vous remercie beaucoup.
Au plaisir.
Et voilà, c'est la fin de notre première heure. Ce soir, à la télé de Radio-Canada, 18h30, c'est Découverte qui présente le troisième épisode de la superproduction haute définition de la BBC, des images fameuses. La grande aventure de la vie ce soir, l'épisode s'intéresse aux mammifères. En attendant, vous restez à la radio pour les nouvelles et pour la deuxième partie des Années-Lumière. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, l'équipe toujours pour vous présenter le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors en cette deuxième heure, on va parler d'abord de chocolat et même éventuellement de pénurie de chocolat, et cela avec Chantal Srivastava. Avec Marie-France Bélanger, on va aller au Japon pour parler de nanotechnologie. Et pour finir l'émission, je recevrai l'auteur de la semaine, Pierre Bélan, qui a écrit un roman intitulé « Là où la nuit tombe », un roman scientifico-policier chez Libre Expression. Bien oui, je le sais que vous attendiez ce dimanche de Pâques avec impatience pour déguster enfin votre gros lapin en chocolat ou votre gros coco de Pâques. Un plaisir de moins en moins coupable, c'est vrai, parce que le chocolat noir, on s'entend bien, eh bien c'est bon pour la santé, on le sait maintenant Chantal, c'est formidable. Sauf que votre chocolat aura peut-être cette année un goût, en tout cas c'est ce que vous allez nous raconter, vilaine, un goût un peu plus amer qu'à l'habitude.
Je suis désolée de gâcher votre dégustation Yannick, mais je n'ai pas pu m'empêcher cette année mondiale donc de la biodiversité, de remonter la filière du chocolat jusqu'au cacaoyer, l'arbuste qui produit la fève de cacao. Et j'ai rapidement découvert, Yannick, que plusieurs scientifiques s'inquiètent de la sécurité des approvisionnements si on ne prend pas certaines précautions rapidement. Alors, le cacao pourrait-il venir un jour à manquer? Pour le savoir, j'ai joint le biochimiste Michel Barrel, chercheur expert en cacao au CIRAD, à Montpellier, en France. Le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. À noter, Yannick, que Michel Barrel est membre de l'Académie française du chocolat, chevalier honoris causa de la confrérie des chocolatiers de France, rien de moins. Il vient de publier en France un très beau livre qui s'intitule « Du cacao au chocolat, l'épopée d'une gourmandise ». Michel Barrel, donc, nous parle tout d'abord de la culture du cacaoyer telle qu'on la pratique aujourd'hui sous les tropiques.
On est encore, dans la plupart des pays producteurs, dans une culture qui n'est pas très loin de la cueillette. On installe des arbres, des cacaoyers, et puis quand les fruits sont là, on les récolte, et puis c'est tout. Le peu de travail que l'on donne actuellement fait que les rendements sont assez faibles. Alors, le cacao est cultivé dans des toutes petites plantations familiales. À 95%, ça vient de petites plantations qui ont moins de 10 hectares. La main-d'œuvre n'est pas très élevée, donc c'est une culture de pays pauvres. Dès qu'un pays commence à émerger, comme actuellement le Brésil ou la Malaisie, la cacao-culture n'est plus rentable. Et on se tourne vers d'autres cultures où on part tenter sa chance à la ville ou je ne sais pas où. Et puis, l'Afrique, donc avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et le Nigeria, c'est 70% de la production mondiale. Alors, tout ce contexte fait qu'on peut rencontrer des difficultés agronomiques et des difficultés économiques.
Commençons tout d'abord par les difficultés agronomiques, Monsieur Barrel, les ravageurs, les maladies, les changements climatiques. La liste potentielle est longue.
Oui, alors la première difficulté, c'est une histoire de fertilité, parce que les sols africains sont des sols latéritiques, c'est-à-dire des sols qui ne tirent leur richesse que d'un matelas d'humus qui vient des feuilles qui se sont accumulées au cours des millénaires venant des grands arbres équatoriaux. Et quand on plante des cacaoyers sur ces sols, eh ben, le cacaoyer, qui produit quand même des cabosses qui font au moins 400 grammes, un fruit de 400 grammes à chaque fois, hein, c'est quand même assez énorme, donc il a besoin de beaucoup d'alimentation. En 30 à 50 ans, les sols sont épuisés. Donc jusqu'à présent, ce qui s'est passé, c'est que le planteur abandonnait l'ancienne plantation, défriché de la forêt un peu plus loin, et retrouvé des sols fertile ou de recultiver une nouvelle fois pour 30 à 50 ans une cacaoyère. Aujourd'hui, il n'y a plus de forêt quasiment, ou le peu qui reste, eh ben, il ne faut pas trop y toucher. Et donc, il faut qu'on, très rapidement qu'on trouve des solutions pour savoir replanter les cacaoyers sur des terres qui en ont contenu, trouver peut-être d'autres endroits où planter les cacaos. Enfin, il y a tout un travail sur lequel on est en train de rechercher des solutions, mais pour l'instant, aucune n'est satisfaisante économiquement. C'est surtout ça le problème qui coince, parce que, évidemment, on pourrait mettre des engrais pour fertiliser les sols. Mais les pays producteurs, je vous l'ai dit, sont des pays pauvres et donc ils n'ont pas les moyens de s'acheter des engrais.
Et c'est peut-être pas la solution non plus, les engrais, d'un point de vue durable.
C'est pas la solution non plus. Au niveau durabilité, c'est peut-être pas le meilleur non plus.
Et de changer de variété, de faire de nouveaux croisements?
Oui, oui. Alors, je vais faire profiter vos auditeurs d'un scoop là, qui vient juste de sortir. Jusqu'à présent, on considérait qu'il y avait deux grandes variétés de cacao, le Forastero et le Criollo. Le Criollo étant le meilleur, mais aussi le plus fragile et qui ne doit représenter que 1% de la production mondiale, alors que le Forastero, c'est 80%. Et puis, entre les deux, il y a un hybride qui s'appelle le Trinitario, mais celui-là, je ne vais pas en parler pour l'instant. Et puis, il y en a un tout petit qui s'appelle le National, qui est une variété aussi, mais qui n'est cultivée qu'en Équateur et qu'on retrouve que très rarement sur les marchés. Alors, on était parti là-dessus. Et donc, on ne pouvait faire des hybrides qu'entre le Criollo et le Forastero, ce qui a donné le Trinitario. Donc c'était un peu limité. Et puis, voilà que des collègues chercheurs, à un niveau international, puisqu'il y avait des Américains, il y avait des gens d'Amérique latine, et quelques Français, ont trouvé qu'en fait, il y a une dizaine de variétés génétiques différentes. Alors, ils ont trouvé ça parce qu'ils ont analysé le génome du cacao. Et ces 10 variétés vont permettre, si elles ont des caractéristiques très différentes, aussi différentes que leur génome, vont permettre de créer des nouvelles variétés, parce que là, effectivement, le nombre d'hybridations va devenir très important. Donc ça, c'est une chance pour l'avenir, mais il y a un travail considérable à faire, puisque pour chacune des nouvelles variétés découvertes, il va falloir voir si elles sont résistantes aux maladies, si elles ont une meilleure productivité agronomique, si elles ont des meilleurs arômes, etc., et puis faire des combinaisons et leur faire des enfants qui auraient les meilleures caractéristiques que l'on souhaite.
Vous faisiez référence, donc, Monsieur Barrel, aux difficultés agronomiques, au rendement des terres qui s'épuisent facilement et aux solutions qu'on tente de développer. Mais il y a également d'autres problèmes liés à des maladies, à des ravageurs et qui affectent déjà maintenant, aujourd'hui, la production de cacao dans le monde.
Oui, ben, le premier, c'est la pourriture brune des cabosses qui est due à un champignon microscopique qui se développe dans les mêmes zones écologiques que le cacao, chaud et humide, qui s'appelle Phytophthora megacaria et qui, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, peut détruire 50% de la production chaque année. Donc ça, c'est un gros problème. Alors pour l'instant, on arrive à peu près à le maintenir, mais on n'arrive pas à l'éradiquer. Et la seule solution que l'on trouve, justement, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est la création de variétés résistantes. En sachant que cette résistance peut diminuer, d'une part, et que d'autre part, le pathogène lui-même peut muter, et donc c'est un petit peu comme la grippe annuelle. Il faut trouver un vaccin chaque année, et là il va falloir trouver des variétés résistantes, quasiment, je dis pas tous les ans, mais enfin, il va falloir toujours rechercher des nouvelles variétés résistantes. Ça c'est pour la pourriture brune, et puis il y a une autre maladie qui sévit plutôt en Amérique latine, qui s'appelle le balai de sorcière, qui est due aussi à un champignon. Et ce champignon va modifier le métabolisme de l'arbre qui ne va plus produire de fleurs ni de fruits, mais qui va produire des petites branchettes le long de ses branches. Et effectivement, les branches ressemblent à des balais de sorcières. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, cette maladie. Et ça fait des très très gros dégâts, notamment au Brésil, qui a vu sa production passer de 400 000 tonnes par an à 150 000 tonnes en moins de 10 ans à cause de cette maladie.
Est-ce qu'on a la moindre idée, M. Barrel, s'il y a éventuellement, compte tenu de ce contexte général et des menaces qui planent, des risques de pénurie dans l'approvisionnement?
Alors oui, y a des risques, effectivement, pas pour demain, puisque on le voit bien avec les cours du cacao qui montent, qui descendent, qui n'ont aucune relation avec ces risques de pénurie, mais dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, ça peut arriver. Alors, je vous ai parlé des risques agronomiques, notamment en Afrique, avec ces sols latéritiques. Il y a aussi des risques économiques. Moi, la question qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est de savoir qui va cultiver du cacao demain. Parce que je vais pas mal dans les pays producteurs de cacao à travers tous les continents, et j'entends les enfants des planteurs qui me disent « Moi, mes parents vivent trop mal, trop misérablement, je ne veux pas reprendre la ferme, je vais partir à la ville ». Et tant pis pour le cacao. Et donc, je ne sais pas qui va cultiver du cacao demain, en sachant que la moyenne d'âge, ça doit être 50, 55 ans pour les planteurs mondiaux. Donc ça, c'est un vrai souci, et malheureusement, vous savez, la spéculation, c'est pas quelque chose qui entend raison, et tant que ça fonctionnera comme ça, que le cacao sera une des grandes matières premières sur lesquelles on spécule, eh bien, les planteurs vont se poser la question de savoir si c'est quelque chose d'intéressant pour faire vivre leur famille.
Michel Barrel, chercheur expert en cacao au CIRAD à Montpellier. Le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Alors Chantal, des solutions à l'horizon pour aider les planteurs de cacao, parce que c'est la grande question.
Oui, Monsieur Barrel l'évoquait, ça passe un peu par la science, mais aussi peut-être surtout par l'économie. Alors, il y a bien sûr le cacao équitable, mais ça ne touche, me disait-il pour le moment, qu'un nombre limité de planteurs de cacao dans le monde, sauf qu'au moins, ça permet de sensibiliser les consommateurs. Il y a également des chercheurs dans des laboratoires qui essaient de développer de nouvelles variétés, mais il faut que ça arrive dans les champs, sur le terrain, dans les cacaoyères, et ça, c'est pas évident. Cela étant dit, il faut aussi voir comment va évoluer la demande en cacao qui croît pour le moment de 3 % par année et surtout voir comment on sera en mesure de combler cette demande croissante le jour où l'Inde et la Chine vont se mettre eux aussi au chocolat noir.
Qui reste au thé noir. Non, mais c'est un vrai problème. Est-ce que les chocolatiers partagent toutes ces inquiétudes, Chantal?
Pour le savoir, Yannick, je me suis adressée à Jean-Jacques Bergeau. Il est vice-président en charge des ventes chez Barry Caibo Canada, un géant donc dans le monde du chocolat. Jean-Jacques Bergeau, qui est dans le chocolat lui-même depuis 34 ans.
On est tous inquiets. On est toujours inquiets lorsque l'on a une pénurie structurelle, c'est-à-dire plus de demandes que d'offres. Y aura-t-il suffisamment de fèves de cacao un jour pour satisfaire tous les amoureux du chocolat? Alors, je vais essayer de vous rassurer. Il y a déjà une très forte réserve de stock de fèves de cacao actuellement. Même si on a cette pénurie structurelle depuis 5-6 ans, le prix du cacao ayant fortement augmenté, ça pousse des planteurs à se diriger vers le cacao et non plus peut-être sur d'autres plantes à caractère économique comme le café ou le poivrier ou l'ananas et autres. Donc lorsque le marché est haut, ça peut donner de bonnes opportunités aux planteurs de faire de l'argent et de d'améliorer sa condition. Il y a également des terres, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire qui représente quand même à peu près 42-44% de la récolte mondiale. La récolte mondiale est à peu près à 3,2-3,4 millions de tonnes de fèves de cacao. La Côte d'Ivoire en est à peu près à 1,6 million. Et il existe encore beaucoup d'exploitations à développer, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Et le rôle de Barry Caibo en tant que leader de l'industrie est évidemment d'amener aux planteurs et aux coopératives son savoir-faire pour développer la qualité et développer la quantité. Nous sommes là pour essayer d'améliorer la condition cacaoyère de l'ensemble des planteurs.
Donc, d'ici 50 ans, on pourra encore se délecter de chocolat sans difficulté ou sans payer un prix de fou.
Mais bien sûr qu'on pourra. Alors, en termes de prix, il est évident que pendant des années, eh bien, le chocolat n'était pas très cher parce qu'on ne l'achetait pas très cher, parce que le marché du cacao était assez bas et que probablement les planteurs, les coopératives n'avaient pas la structure qu'elles ont aujourd'hui. Barry Caibo est en train de développer à la fois au Ghana, à la fois en Côte d'Ivoire, et en Amérique du Sud, des villages, des écoles pour faire en sorte justement que les plants améliorer un peu la condition, quand je dis un peu beaucoup, la condition de ces planteurs. Donc il y aura toujours du chocolat. Le consommateur pourra choisir entre un très bon chocolat et les industriels de ce monde, à la fois biscuitiers, glaciers, chocolatiers, pourront choisir en fonction des plantations, faire des mélanges ou utiliser des grands crus qui seront évidemment plus chers. Une bouteille de Bordeaux classée ou grand cru ou de Bourgogne sera de toute façon plus chère qu'un vin d'assemblage que l'on trouve à la SAQ pour monsieur, madame, tout le monde. Et ça, dans le chocolat comme dans le café, on retrouvera ça. Mais faut rester optimiste et je pense que je le suis.
Ben écoutez, Monsieur Bergeau, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions.
Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.
Joyeux coco,
chocolat,
comme on dit.
Vous aussi, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Donc, Jean-Jacques Bergeau,
qui est vice-président en charge des ventes chez Barry Callebaut Canada. Ben, Chantal, à vous aussi, bon coco quand même, hein?
Vous de même, d'autant plus que le chocolat, c'est bon pour la santé. D'ailleurs, Yannick, encore cette semaine, une nouvelle étude a confirmé les bienfaits du chocolat consommé en quantité modérée, baisse de la tension artérielle, réduction des risques de maladies cardiaques, des résultats publiés dans le European Heart Journal après l'étude d'une cohorte de près de 20 000 personnes durant 10 ans. Mais attention, dit-on, il ne faut pas augmenter l'apport en calories. On parle ici d'un petit carré par jour, pas du lapin au complet.
Quelle sagesse. Merci beaucoup, Chantal. Et joyeuse Pâques.
À vous aussi.
Nanotechnologie maintenant, les nouvelles vedettes de la science. On le sait, le Japon est un des trois leaders mondiaux dans le domaine et il domine aussi tout le développement entourant les nanotubes de carbone. Marie-France Bélanger s'est donc rendue au Japon grâce à la bourse Québec-Japon attribuée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et par le Foreign Press Center du Japon pour voir comment se développe ce secteur. Voici son reportage.
Chers athlètes, spectateurs du monde entier. Le son de la cloche du temple rappellera désormais que Nagano, avec sa fleur de neige, est déjà une ville olympique.
En 1998, Nagano s'est fait connaître du monde entier en accueillant les Jeux olympiques d'hiver. Aujourd'hui, la ville de quelque 350 000 habitants, nichée dans les montagnes, est dans une toute autre compétition internationale, celle des nanotechnologies. En fait, Nagano est l'un des centres d'excellence dans le domaine au Japon. Et c'est notamment ici que ça se passe, à la faculté de génie de l'Université Shinsu. Le campus qui n'a rien de tape à l'œil est étonnamment calme ce matin-là. Nous sommes ici pour rencontrer le professeur Morinobu Indo, considéré comme l'un des grands maîtres en matière de nanotechnologie. Il nous accueille dans son laboratoire. Le professeur Indo, aux allures de président de compagnie avec son veston marine et sa cravate, est l'un des spécialistes des nanotubes de carbone. Ces minuscules cylindres, environ 100 000 fois plus petits qu'un cheveu, et porteurs de bien grandes promesses.
Nous pouvons dire que notre université est le leader dans le domaine des nanotubes de carbone. Les nanotubes qui constituent le fer de lance des nanotechnologies, le leader parmi tous les nanomatériaux. C'est cette matière qui guide tout le reste.
Les nanotubes de carbone, qui réunis par milliards, ressemblent à de la suie, ont des propriétés exceptionnelles et uniques, ajoute le professeur Endo. Beaucoup plus résistants que l'acier, tout en étant plus légers, les nanotubes peuvent considérablement améliorer les matériaux. Le professeur Endo nous montre toute une panoplie d'objets exposés sur de grandes tables devant son bureau. Ces prototypes, développés notamment grâce aux recherches menées ici, contiennent tous des nanotubes de carbone, ce qui leur confère de nouvelles propriétés. Il y a notamment une mini carrosserie de voiture, une bicyclette, une raquette de tennis et une paire de skis. Attention, vitesse assurée sur les pentes, les nanotubes favorisent la glisse. Tout ça n'est qu'un début, le professeur Endo voit très grand.
Je pense que la nanotechnologie peut littéralement sauver la planète. Par exemple, un aluminium avec nanotubes est en cours de développement. Si ça fonctionne, concrètement, ça voudrait dire des voitures deux fois plus légères, donc une faible consommation d'essence et finalement moins de pollution. Ce n'est qu'un exemple. On mène aussi des recherches sur le cancer des os. Des chercheurs ici tentent de voir si des os artificiels fabriqués avec des nanotubes de carbone peuvent stopper la propagation des cellules cancéreuses. En fait, on ne connaît pas encore tous les miracles que les nanotubes de carbone pourront produire, mais Ce qu'on espère éventuellement, c'est que les nanotubes puissent contribuer à résoudre les grands problèmes de l'humanité.
Le professeur Endo n'est pas le seul à voir grand. Pour bien des gens, les nanotechnologies vont entraîner la prochaine révolution industrielle et bouleverser nos vies comme l'ont fait l'ordinateur et Internet. Ici à Nagano, on y croit tellement qu'entreprises et chercheurs travaillent main dans la main pour accélérer le pas dans cette course technologique. C'est ce qui a poussé Nano-Québec, un organisme voué au développement des nanotechnologies en sol québécois, à conclure une entente avec le Nagano Techno Foundation, qui fait justement le pont entre la recherche et l'industrie. Nagano fait donc partie des destinations privilégiées du PDG de Nano-Québec. Robert Crowell était au Japon au même moment que nous.
Le Japon, soit d'un côté de la recherche, mais aussi probablement plus important du côté industriel, est une des leaders au monde. Au Québec, nous sommes beaucoup plus petits. Une des façons de rester au peloton de tête dans les technologies, c'est de travailler avec les meilleurs. Une de nos priorités, c'est de mettre devant les Japonais les opportunités que nous avons. Comme, par exemple, la cellulose nanocrystalline. Ça, c'est une nanotechnologie qui vient des produits forestiers qu'on peut utiliser. C'est un produit vert. C'est très fort. C'est beaucoup plus fort que l'acier, par exemple. Mais ça vient des arbres. La raison que les arbres restent verticales, c'est parce que dans le bois, il y a des choses très, très, très fortes. Une de ces composants, c'est la cellulose nanocrystalline. Alors, au Québec, nous avons des procédés pour extraire des celluloses nanocrystallines.
Et on peut mettre ça dans quoi?
Dans les vernis. C'est 5 fois plus dur que les vernis d'aujourd'hui. Et ça, c'est une chose que nous avons, que les Japonais n'ont pas.
Également au Japon, au même moment, un autre Québécois, très intéressé lui aussi par les nanotechnologies au pays du soleil levant.
Denis Thérien, je suis vice-principal à la recherche et aux relations internationales à l'Université McGill, en séjour à Tokyo.
Le Japon est peut-être le pays le plus avancé dans ce qu'on appelle, encore une fois, de façon un peu vague, la nanotechnologie. Et ils sont des maîtres dans ces domaines-là. Il y a un nombre de scientifiques élevés et de très haute qualité.
Le but de son voyage, entre autres choses, tisser des liens plus étroits entre l'Université McGill et le Japon dans le domaine des nanos, qui occupe de plus en plus de place au sein de son établissement.
Si on regarde les embauches qui ont été faites depuis une dizaine d'années, il y a eu plus d'embauches en nanotechnologie que dans n'importe quel autre secteur de l'université.
Pas étonnant de constater autant d'intérêt pour ce qui se fait au Japon en matière de nano. Tokyo mise gros sur cette science de l'infiniment petit. En fait, c'est carrément l'une des priorités du gouvernement japonais. En 2008, il a injecté plus d'$1 milliard en recherche et développement dans ce secteur. Nathalie Cavazin est chercheure associée à l'université privée Waseda à Tokyo et spécialiste du développement régional, industriel et de l'innovation.
Le Japon, à partir des années 80, s'est engagé dans le développement de nouvelles industries de haute technologie. Parce que, comme vous le savez, le Japon est un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Donc, pour lui, s'investir dans de nouveaux domaines, c'est une question primordiale pour son développement futur. Et en particulier, donc, les nanotechnologies, sont un des domaines sur lesquels il a investi beaucoup en matière de recherche et développement. Et ceci, je dirais, surtout à partir des années 2000.
À l'ombre du mont Fuji, la ville de Mishima, qui compte un peu plus de 110 000 habitants. C'est ici que se trouve l'unité de production et le laboratoire de Tokushu Paper, l'une des plus importantes entreprises dans le domaine du papier au Japon. Car il n'y a pas que le gouvernement japonais qui investit dans les nanos, le secteur privé aussi, un indice sans doute du potentiel pressenti. Tokushu Paper a consacré à ce jour plusieurs millions de dollars pour développer ce qu'elle qualifie de tout premier papier contenant des nanotubes de carbone. Le résultat ressemble à une feuille de papier ordinaire, couleur charbon. Hiromichi Watanabe est directeur des ventes et du développement pour l'entreprise.
On ne connaît pas l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé, mais dans l'avenir, ce papier avec nanotubes de carbone pourrait être utilisé pour bloquer certaines ondes. Il pourrait être incorporé dans les câbles de haute fréquence ou dans les systèmes de péage des autoroutes. Ça pourrait aussi améliorer la performance des piles à combustible ou des piles solaires. Cela dit, les consommateurs japonais ne verront pas ce papier comme tel, puisqu'il sera utilisé comme composant.
Comme c'est le cas pour beaucoup d'autres produits nano, le papier avec nanotubes de carbone est toujours en cours de développement. En revanche, d'autres entreprises ont franchi quelques étapes de plus.
C'est sûr qu'on n'ira jamais.
En plein cœur de Tokyo, le gratte-ciel somptueux de Mitsubishi, une multinationale qui rayonne dans une foule de secteurs, de l'automobile en passant par l'industrie chimique et pétrolière, le vêtement et même les produits de beauté. La multinationale a mis au point un ingrédient actif destiné aux cosmétiques, un ingrédient à base de C60, une nanoparticule de carbone. Suishi Yanama est PDG de Vitamin C60 Bio Research Corporation, une société qui appartient à Mitsubishi.
This is a cream and this is a lotion. So there are about 500 cosmetic products already commercialized.
Voici une crème hydratante et une lotion. Ce ne sont que quelques exemples parmi bien d'autres. Au total, sur le marché, 500 produits cosmétiques contiennent cet ingrédient actif que nous avons développé. Le C60 que nous revendons aux entreprises de cosmétiques permet de lutter contre les rides et la cellulite, d'éclaircir le teint, en plus de favoriser la repousse des cheveux. Pour l'heure, les entreprises japonaises constituent de 80 à 90 % de nos acheteurs, mais nous avons aussi des clients en Corée, à Taïwan, en Thaïlande et aux États-Unis.
We have customers in Korea, Taiwan, Thailand and the United States.
Au Japon, plus de 1000 produits dits nano sont déjà sur les tablettes. Ils représentent un marché de plus de 35 milliards de dollars canadiens. En 2030, ce sera 9 fois plus, selon les prévisions du gouvernement japonais. Pour l'instant, l'essentiel de ce marché concerne l'électronique. Est-ce trop beau pour être vrai? Il y a tout de même un nuage à l'horizon. Ici, dans ce laboratoire, un étudiant porte un habit de protection qui va de la tête aux pieds, ainsi que des gants et des lunettes. C'est l'une des mesures de précaution prises par les scientifiques qui ont à manipuler des nanotubes de carbone, ces minuscules cylindres dont on connaît toujours bien mal les risques. Le professeur Susumu Arai de l'Université Shinsu à Nagano.
Pour l'instant, on ne sait pas si les nanotubes de carbone sont dangereux ou non pour notre santé. C'est pourquoi nous prenons des mesures de protection pour ne pas aspirer ces particules ultra fines. Donc, obligatoirement, on porte le masque. Et puis, nous avons un système de ventilation qui aspire tous les nanotubes en suspension.
C'est en train que nous nous rendons à l'Institut national de santé et sécurité au travail de Kawasaki, à environ une heure de la capitale. Il s'agit de l'un des nombreux centres de recherche japonais qui s'intéressent aux dangers potentiels des nanomatériaux. Les nanotubes de carbone, qui rappellent les fibres d'amiante avec leur forme allongée, soulèvent bien des questions. Shigeki Koda est directeur du groupe de recherche sur l'épidémiologie et l'évaluation des risques à l'Institut.
Officiellement, jamais personne en sol japonais n'a développé une maladie à cause des nanomatériaux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les nanomatériaux à base de carbone, dont les nanotubes, sont les plus redoutés d'après les tests réalisés sur les animaux. Ce qui nous inquiète, c'est l'exposition à long terme des travailleurs qui auront respiré ces minuscules particules pendant des années. Peut-être verra-t-on des cas de cancer ou des maladies liées au système respiratoire. Mais ce ne sont que des prévisions. Il y a beaucoup d'inconnus pour le moment.
Les contrôles de sûreté des nanomatériaux semblent en retard sur le développement des nanotechnologies. Dans l'un des laboratoires de l'Institut, le chercheur Mitsutoshi Takaya, aux allures d'étudiant avec sa chemise à carreaux et ses espadrilles, nous présente un appareil constitué d'un ordinateur, d'un enchevêtrement de fils et de capteurs. Un appareil qui présente certaines limites.
Voici la machine de référence utilisée non seulement au Japon, mais dans le monde entier. Cette machine a été conçue pour mesurer la présence de nanoparticules en forme de sphère. On ne sait donc pas si elle est vraiment efficace pour déceler ou non les nanotubes de carbone, qui ont plutôt une forme allongée. L'appareil n'a pas été pensé en fonction des nanotubes.
Dans un tel contexte, pas étonnant que les mesures pour encadrer les nanotechnologies soient plutôt timides, sans grande contrainte. Masayuki Koiwa est directeur adjoint au ministère de l'Environnement du Japon.
Depuis mars 2009, nous demandons aux entreprises qui œuvrent dans le domaine nano de se doter d'un système de ventilation afin de bien capter toutes les nanoparticules fabriquées ou utilisées dans leur usine. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est volontaire. Comme il manque de connaissances fiables sur les conséquences des nanomatériaux sur l'environnement et la santé, on ne peut pas exiger que les entreprises investissent beaucoup d'argent pour prendre des mesures de précaution.
Dans un même esprit, le gouvernement japonais n'effectue pas de contrôle supplémentaire sur les produits nano avant leur mise en marché et n'exige pas non plus leur étiquetage. Pour les consommateurs et les citoyens avertis, impossible de s'y retrouver. Dans le quartier Shibuya, l'un des plus achalandés et bouillonnants de Tokyo avec ses immenses panneaux publicitaires, un groupe de jeunes filles offre un spectacle de rue. Ici, l'essor des nanotechnologies ne semble pas susciter de grands débats sociaux, du moins pas pour l'instant. Mais il y a au moins un groupe qui perçoit plusieurs fausses notes dans le développement des nanotechnologies au Japon. L'organisme citoyen contre la pollution chimique a même fait des nanos son principal cheval de bataille.
This is my office.
Voilà, c'est mon bureau ici.
General Secretary of the CSCP.
L'organisme, en apparence sans grands moyens, a élu domicile dans un tout petit local situé dans un quartier populaire en banlieue de Tokyo. Takeshi Yasuma, un ancien ingénieur aux cheveux grisonnants, agit comme analyste pour le groupe.
En fait, le Japon essaie d'arriver premier dans la course aux nano. L'État et l'industrie travaillent main dans la main pour y arriver. Le problème, c'est qu'on néglige le volet sécurité pour ne pas freiner le développement. L'État a peur que le doute de la population n'entrave le développement en nanotechnologie. Le gouvernement ne fournit donc pas beaucoup d'informations au peuple japonais sur le sujet. Et puis, les lois actuelles ne sont pas adaptées pour encadrer cette technologie émergente.
C'est le service de rédaction ici.
Yukiko Motomura est responsable des dossiers touchant la science, l'environnement et la technologie pour le journal Mainichi, l'un des plus grands quotidiens du Japon, dont les bureaux se trouvent en plein cœur de Tokyo. La journaliste va dans le même sens que le groupe de pression citoyen contre la pollution chimique.
むしろ政府のプロパガンダによって、いいものだというふうにイメージが先行して。
Le gouvernement japonais parle de la nanotechnologie comme d'un outil indispensable pour le développement du pays. Sans la promotion de la nanotechnologie, pas de développement au Japon. C'est de cette manière que le gouvernement japonais aborde le sujet. Du point de vue journalistique, pour moi, c'est de la propagande, parce que l'État ne parle que des aspects positifs.
いい面だけを強調するという意味でプロパガンダかなと私は感じています。
Faudrait-il freiner ou arrêter même le développement des nanotechnologies le temps d'en savoir un peu plus sur les risques? Kiyoshi Shishido, porte-parole du NBCI, la Nanotechnology Business Creation Initiative, sorte de chambre de commerce qui représente quelques 300 entreprises japonaises qui œuvrent dans le domaine des nano.
当然そういう視点は重要だというふうには。
Oui, il faut respecter un principe de précaution, mais il ne faut certainement pas tout arrêter jusqu'à ce qu'on soit absolument certain qu'il n'y a aucun danger. Ce ne serait pas raisonnable parce qu'il faut tenir compte de tous les bénéfices que la nanotechnologie va apporter à la société, notamment en matière d'environnement.
Les nanotechnologies changeront-elles nos vies comme beaucoup le prétendent? Certains experts optent pour la prudence. C'est le cas du chercheur Saïd Kazaoui, rattaché à l'Institut national supérieur des sciences industrielles et de la technologie de Tsukuba, une ville académique à environ une heure de Tokyo, l'un des plus importants centres de recherche en nanotechnologie au Japon.
Les nanotubes de carbone et les nanomatériaux en général, en recherche fondamentale, ils ont beaucoup de potentiel. Il y a de très très belles choses qui ont été faites en physique de ces matériaux. Beaucoup de démonstrations ont été faites par des groupes comme IBM, comme NEC, dans le monde entier. Mais en application, il y a beaucoup de contraintes. Donc on ne peut pas prendre toutes les découvertes de recherche fondamentale et les mettre en application directement. Donc on doit travailler, faire un peu de screening, voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui relève du rêve et ce qui relève de la réalité. Et dans l'industrie, il y aura encore plus de contraintes, en fait. Contraintes de coûts, contraintes de production. Et donc, est-ce qu'il y aura un produit final, industriel, qui sera vendu en grande quantité? Ça, c'est la question fondamentale. Ça, c'est une question qui reste ouverte. Dire si les nanotubes de carbone, demain, auront un très fort impact sur la société, c'est très difficile à juger.
Prudence aussi de la part de Nathalie Cavazin, chercheure à l'université privée Waseda de Tokyo et spécialiste de l'innovation au Japon. Selon elle, on ne peut pas dire quel sera l'impact des nanos.
Ça pourrait être un secteur très porteur, mais aujourd'hui, on ne sait pas. C'est une vision du futur. C'est dans la tradition, en fait, du gouvernement japonais, et en particulier du METI, donc du ministère de l'économie et du commerce international, de faire des visions pour le futur, de faire des projets très, très planifiés, etc., pour donner des directions, des directives. Ça peut être comme, en quelque sorte, une politique feu d'artifice, je ne sais pas. C'est le futur qui nous le dira. Aujourd'hui, on ne peut pas trop savoir, on ne peut pas trop s'avancer. Voilà.
C'était un reportage de Marie-France Bélanger au Japon.
L'auteur de la semaine, maintenant, il vient de publier un roman. Un roman policier, un thriller même, fort efficace et à forte teneur scientifique. C'est pour ça qu'il est ici avec nous. Alors cet auteur, il s'appelle Pierre Bélan. Il a lui-même ses lettres de créance scientifique. Il a entre autres été scientifique de l'année de Radio-Canada. C'était en 1988 pour son travail de pionnier sur les bélugas du Saint-Laurent. Pierre Bélan donc est en studio avec moi. Bonjour Pierre.
Bonjour Yannick.
Alors donc votre roman s'intitule « Là où la nuit tombe ». C'est publié chez Libre Expression. Alors, on peut pas donner, évidemment, c'est un roman policier, on peut pas donner la solution de l'intrigue, faut laisser au lecteur son plaisir, n'est-ce pas? Mais il faut quand même un peu nous dire de quoi il s'agit. C'est quoi cette histoire? En gros, qu'est-ce qui se passe dans ce roman?
Eh bien, je donne toujours le début, oui, parce que je ne veux pas vendre la mèche, mais ça commence avec un jogger qui court sur le Mont-Royal. Et,
à Montréal.
À Montréal, et sous la pluie, et par erreur, il voit un corps, mais il met le pied dessus, et c'est le corps d'une jeune femme qui est nue, lacérée. Il pense qu'elle est morte, la police arrive, on prend des échantillons sur son corps, et on réalise qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle est dans le coma. Alors, mm-hmm, on l'amène à l'hôpital et tout, et entre-temps, le labo fait les analyses pour l'ADN pour détecter qui pourrait être le meurtrier.
L'agresseur, oui.
Et le labo dit, je m'excuse, monsieur l'inspecteur de police, mais l'agresseur, c'est un gorille.
L'ADN, oui.
Et c'est incontrovertible, comme on dit en anglais, oui, comme évidence, c'est un gorille, il n'y a rien à faire. Et c'est comme ça que l'histoire démarre.
L'histoire va commencer,
et
oui,
à la fin, on découvre que tout est logique et que tout se tient.
Bien sûr, comme dans tous les bons romans policiers. Alors, donc, il y a un crime mystérieux, au départ, une agression mystérieuse, il y a une enquête, il y a un inspecteur de police, il y a des méchants, évidemment, donc il y a tous les ingrédients du roman policier.
Ah oui, exactement. Il y a des méchants, mais il y a des gens qui... Il y a un peu l'équivalent de ce que je dirais les intégristes gène, si on veut. Les gens
parce
qui,
qu'il y a de la
de
génétique,
jours,
hein, c'est un roman
c'est
génétique.
C'est ça, c'est un roman où il y a de la génétique. Et il y a des gens, donc, les antagonistes sont des gens qui font des manipulations génétiques et des gens qui s'opposent à ces manipulations, que ce soit des OGM ou que ce soit n'importe quoi. Alors, ça crée une tension, puis bon, ça mène à des meurtres. Et
ça nous emmène aux quatre coins du monde, évidemment.
Aux quatre coins du monde.
Notamment en Europe centrale, près de Brno, donc près des lieux de naissance de Freud, mais aussi de Mendel, hein, la génétique.
Voilà, exactement.
C'est ça, oui, donc
voilà.
Ça veut dire quelque chose aussi, c'est une des pistes. Puis ça nous emmène aussi en Corée du Nord, hein, où vous êtes allé... En mission, je pense.
Exactement. Oui. J'étais pas en mission, j'étais avec mon épouse qui était en mission pour la Croix-Rouge internationale.
Oui, d'accord. Oui.
Et je l'ai accompagnée. C'était impossible d'y aller. On m'a dit non, tu peux pas y aller. Alors j'ai fait une demande par la Croix-Rouge à l'ambassade de Corée du Nord. J'habitais à Pékin à l'époque. Et j'ai eu mon visa et je suis allé. Et j'ai fait une découverte extraordinaire parce que très peu de gens vont en Corée du Nord en touriste. Et même des Occidentaux, c'est très rare d'en voir. Et j'ai découvert un pays qui était 50 ans en retard. On a l'impression, quand on est là, qu'on vient d'arriver, que la Deuxième Guerre mondiale vient juste de se terminer. Et ils n'ont pas encore inventé la couleur. Tout est en noir et blanc. Et
oui.
C'est comme un documentaire des
années
50.
D'ailleurs, dans votre roman, donc, le personnage, l'un des personnages, ou plusieurs des personnages du roman qui se retrouvent là, vont là. Il y a des rapports avec des orphelinats. C'est assez triste et assez poignant, cette partie du livre. Hein.
Oui, et c'est réaliste en ce sens que quand j'écris un roman, je vais toujours chercher des lieux, des choses, des endroits, des personnes qui ont existé, qui sont réelles, que j'ai rencontrées. Je change les noms, parfois je change les dates. Mais cette atmosphère qui est décrite est tout à fait exacte. Quiconque est allé pourrait témoigner que ça se passe vraiment comme ça.
Alors vous l'avez dit, hein, ça commence avec une histoire de gorille, de gène de gorille. Et comme l'intrigue se passe en 2020, en tout cas au début du roman, en 2020, donc c'est une histoire qui ne s'est pas produite, enfin qui ne s'est pas encore produite, on ne sait pas. Les gorilles en liberté ont disparu de la surface de la Terre, il n'y en a plus que dans quelques jardins zoologiques. C'est un message d'écologiste, ça?
C'est un message d'une chose qui pourrait fort bien arriver.
Oui.
Et on peut l'appliquer aux gorilles ou on pourrait l'appliquer à d'autres espèces parce qu'il en disparaît constamment.
Au beluga du Saint-Laurent, par exemple.
Au beluga du Saint-Laurent ou à d'autres. Alors, c'est un peu un message pour dire aux gens, si on n'y fait pas attention, dans un avenir assez rapproché,
oui, 2020,
ça se produira. 2020, c'est pas loin, hein,
non,
c'est dans 10 ans.
C'est pas très loin.
Et un élément dans le roman que je ne sais pas si celui qui le lit le note immédiatement, mais la première partie du livre qui se passe en 2020, il pleut tout le temps.
Hein,
il pleut à tous les jours,
aussi,
il y a des changements climatiques, alors il pleut.
Oui.
Ensuite, on retourne dans le passé pour comprendre la genèse de ce qu'il y a dans la première partie.
Donc, on est au milieu des années 93, 94.
Et les années s'écoulent. Et ensuite, à la fin, on revient en 2020, mais il ne pleut plus.
Pour avoir la solution.
La dernière partie, il ne pleut plus. Là. La pluie est complètement terminée et on a la solution de l'énigme.
Oui, c'est ça. Bon, j'ai dit que vous aviez été... vous avez beaucoup travaillé sur les bélugas dans une autre vie, hein, il y a quoi, 20, 30
mais
ans?
Mais j'y travaille encore.
Encore, oui.
Encore, à chaque année.
Les dernières nouvelles des bélugas, c'est
je
quoi?
Me débat des pieds et des mains pour trouver les fonds pour continuer à récolter les carcasses et faire les études à la faculté de médecine vétérinaire. C'est un projet qui dure depuis 27 ans, le plus long de son genre au monde.
Est-ce qu'on aurait pu mettre les belugas comme héros d'un roman policier? Parce qu'eux aussi sont menacés de disparition.
Oui, on aurait pu les mettre comme héros. Il aurait fallu que je choisisse un autre lieu que le Mont-Royal pour débuter l'histoire.
Pour commencer à Tadoussac.
Absolument, absolument, oui.
Alors, Pierre Bélan, donc, vous avez été scientifique, vous l'êtes encore, mais enfin, vous avez eu une vie de scientifique avant d'être devenu romancier. Vous prouvez, au fond, qu'on peut sortir un homme de la science, mais qu'on ne sort pas la science d'un homme. Comment c'est venu le roman? Pourquoi le roman? Quand on est scientifique, qu'est-ce qui fait qu'on change à ce point?
C'est un autre des nombreux hasards dans ma vie.
Oui.
Mon premier livre, c'est un livre sur les bélugas.
Oui.
Les bélugas ou la dieu aux baleines, qui étaient des histoires vraies, mais romancées, écrites comme un roman, sur les bélugas. Et l'éditeur qui a fait la version française, parce que je l'ai écrit en anglais, il a été publié d'abord à New York, l'éditeur qui a fait la version française à Montréal, André Bastien, chez Libre Expression, il m'a invité à luncher un jour. Il a dit, Pierre, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, abandonne tout ce que tu fais, tu es un écrivain. Oublie le reste. Bon, d'accord.
Avec
merci.
Un contrat plantureux,
et j'imagine. Il m'a dit, je vais faire signer 5 contrats pour un roman. Moi, ne connaissant pas le milieu du roman et de l'édition, j'ai dit, on va commencer par un.
Oui, je l'ai
fait, un roman qui s'appelait 3 jours en juin, qui est aussi une intrigue, mais qui dure 3 jours. Et par la suite, André m'a dit, alors, quand écris-tu le prochain? Ça, c'était en 98. Il s'est passé toutes sortes de choses entre-temps. Je suis allé en Chine, j'ai appris le mandarin, j'ai fait plein de projets. Et finalement, j'ai décidé de m'y remettre. Et j'ai écrit celui-ci. Et maintenant, j'ai voyagé en Amérique du Sud à l'automne. Et dans les hôtels, j'écrivais « Yo soy un escritor ». Je suis un écrivain. Alors maintenant, j'ai décidé de devenir écrivain. Mais j'utilise, bien sûr, mon passé, les choses que
et
je connais.
Et bien sûr, et les connaissances
la
scientifiques.
La science, connaissances scientifiques, les pays que j'ai visités.
Alors, c'est un bon filon d'inspiration, la science, les choses de la science. On parle de génétique, on parle de beaucoup de choses de génétique appliquée, disons-le comme ça.
Absolument.
C'est un bon filon pour vous?
Oui, et c'est un filon qui n'est pas très utilisé. Et je dis toujours que les gens passent beaucoup de temps et d'énergie à écouter ou à lire des choses plutôt banales qui ne reposent sur rien, mais qu'on peut également s'intéresser à la science. On peut écrire des romans scientifiques, on peut faire des émissions de télévision sur la science ou des émissions de radio.
Mais on ne fait pas de la science-fiction, ce roman-là. Ce n'est pas de la science... Ben, il y a de la fiction, oui, bien sûr, mais...
Ce sont tout ce que je dis dans le roman...
Pourrait avoir eu lieu,
et les choses qui ne sont pas encore réalisées sont réalisables, théoriquement. C'est simplement qu'on n'a peut-être pas développé toutes les techniques, mais je pense, moi, que certaines des choses dont je parle dans mon roman ont déjà été faites, mais en secret. Personne ne le sait.
Il faut dire que votre roman, bon, les choses se passent en 1994-95. Les conséquences de ça, c'est 2020.
Voilà.
On est entre les deux. Peut-être,
on est entre les deux.
Peut-être que vos personnages et vos héros, votre histoire existe vraiment?
C'est possible. Je crois que oui.
On ne peut pas en dire beaucoup plus aux auditeurs, mais effectivement, c'est peut-être quelque chose qui a pu se produire, on est dans la manipulation génétique, donc forcément, c'est quelque chose qui a été...
Oui, je pense. Et dans le contexte des Jeux olympiques, la prochaine crainte des autorités du comité olympique, ce sont les athlètes génétiquement modifiés.
Oui,
plus les drogues.
C'est-à-dire
qu'au lieu de prendre de l'érythropoïétine qui a été fabriquée à partir de cellules de hamster ou de souris, on va la prendre à partir des cellules de l'athlète et on va modifier ces cellules et on va les lui réinjecter et ce sera indétectable, parce que c'est sa propre génétique.
C'est ça, il n'y aura pas de signature
de
bizarroïde. Mais dans ce cas-là, il y a une signature étrangère, quand même, qu'il faut le dire, c'est toujours intéressant. Donc, vous l'avez dit, la science, quand même, donc source éventuellement, la science et technologie,
en gros,
qui font vraiment, qui sont au centre de notre culture, de notre monde, de notre univers, très peu présents dans le roman, dans le cinéma, sauf pour la science-fiction. Est-ce que vous avez une explication pour ça?
Je pense que les scientifiques sont un peu, comme je l'ai souvent dit, dans leur propre monde. Ils poursuivent leur carrière, ils se parlent entre eux en termes très compliqués. Et la plupart des gens pensent que c'est inaccessible comme sujet, comme mode de conversation ou de compréhension de l'univers, alors que c'est faux. C'est simplement qu'il y a un langage accessible à tous pour décrire ces choses. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon roman, et je pense que j'ai réussi. N'importe qui peut lire ce roman et comprendre.
Et je dois dire que ce n'est pas trop pédagogique non plus. On apprend ce que c'est qu'une mitochondrie, par exemple, mais c'est pas trop long, c'est pas trop difficile.
Non, et comme on en a tous, des oui. mitochondries, c'est aussi bien de savoir,
ce que c'est. Voilà. Le prochain roman, va y avoir de la science encore?
Il y a de la science encore. Je suis à y travailler en ce moment. Et voilà, ça va se passer en Russie, au Canada.
Oui. Et celui-ci, donc, qui se passe au Canada, sur la côte nord du Québec, qui se passe...
Ça se passe aussi...
En Corée, en Europe centrale.
En Turquie
aussi, oui.
Dans les Antilles.
Ouais, oui, dans les Antilles aussi. Il y a encore beaucoup de bateaux, d'ailleurs, hein, et de baleines à plusieurs moments. Hein.
Il y a des bateaux,
il y a aussi
oui,
de marins.
J'ai toujours une âme de marin, oui. Oui,
alors, on a dit de vous que... Ça, j'ai vu quelque part qu'on vous disait que vous étiez le John le Carré québécois. C'est un peu lourd à porter, non?
Non, ça me fait plaisir.
Oui, ça me fait plaisir.
Oui, et même dans la dernière revue, Le Libraire, j'ai été comparé. On a dit que mon roman était l'égal des meilleurs de Crichton, qui est celui qui a écrit Jurassic Park. Alors, les meilleurs de Crichton. Alors, il n'a pas dit les moins bons, il a dit les meilleurs.
Bien sûr, évidemment. On se contente de rien de moins que cela. Voilà. Alors, en conclusion, en plus donc de l'aventure, de l'action, du mystère qu'il y a dans ce roman, qu'est-ce que vous voudriez... vous, comme auteur, qu'on retienne de ce livre-là, Pierre Bellin?
Je voudrais qu'on retienne que l'avenir qui nous attend, il est très, très près de nous. Et qu'il faut qu'on le construise, cet avenir, et qu'on le prépare et qu'on le prévoit.
C'est essentiellement ça qu'il faut dire, parce qu'effectivement, 2020, comme on le disait tout à l'heure, c'est très, très près. Alors, Pierre Bellin, merci d'être venu en studio. Je rappelle donc que votre roman policier s'appelle « Là où la nuit tombe » et c'est publié chez Libre Expression dans la collection Expression Noire. On est vraiment dans la série noire. Voilà. Merci beaucoup, Pierre.
Je vous en prie, merci.
Donc, Pierre Bellin, auteur de ce très beau roman policier. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années-Lumières, une émission réalisée par Dominique Lapointe, avec à la technique aujourd'hui Alain Savoie. Les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan, Chantal Srivastava et Marie-France Bélanger. Au site internet, Louis-André Bertrand, chroniqueur invité Yves Gingras. Alors la semaine prochaine, mercredi à 17h30, nous serons à Rouen, en Abitibi, au cabaret, au cabaret de la dernière chance pour un nouveau bar des sciences Radio-Canada Québec Science. La discussion sera sur le thème de l'exploitation minière et de l'environnement. Alors si vous êtes à Rouen ce jour-là ou si vous passez en Abitibi, eh bien venez participer à cette discussion au cabaret de la dernière chance mercredi. Et puis si vous ne pouvez pas assister à la discussion, à la réunion, au bar des sciences en question, eh bien, écoutez notre édition de dimanche prochain pour la diffusion des meilleurs moments de cette rencontre. Cela dit, je vous souhaite à nouveau de joyeuses Pâques, avec ou sans chocolat, profitez-en en tout cas. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Au revoir et bonne semaine.